Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Jean-Claude Rouchouz, membre de l'Association des Amis des Arts et du Musée de Die, qui organise la troisième exposition mycologique, une exposition sur les champignons du Diwa et du Vercors, qui aura lieu vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19, de 10 à 18 heures à la salle polyvalente de Die. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour, bonjour.
C'est pas étonnant que vous fassiez votre traditionnelle exposition sur les champignons à cette époque de l'année où c'est l'époque des champignons, si je ne m'abuse.
Oui, c'est vraiment le mois d'octobre et le mois des champignons. Ça commence bien sûr en septembre et ça peut se prolonger jusqu'à fin novembre. Et à l'exception de quelques champignons, mais beaucoup moins, qui poussent au printemps comme les moriers. Sinon, le mois d'octobre, c'est le mois traditionnel des champignons et en général, les expositions mycologiques, que ce soit celle de Luce la Croix-Haute qui a eu lieu la semaine dernière et puis celle de Montélégé qui aura lieu dans une semaine, elles se feront en octobre.
Avant de parler de cette exposition, on pourrait parler de champignons. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait des champignons? Parce que je sais qu'il y a des années, on dit qu'il n'y a pas de champignons, tandis que d'autres années, il y en a beaucoup plus que d'autres. Alors, quels sont les critères pour avoir des champignons?
Ben d'abord, il y a toujours des champignons, parce qu'en fait, le champignon a une vie souterraine par son mycélium. Donc le mycélium vit tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mais l'appareil reproducteur, donc le champignon que l'on cueille, qu'on appelle le sporophore, lui apparaît de manière moins longue, ça varie beaucoup selon les champignons, donc essentiellement en automne. Mais en ce qui concerne le champignon lui-même, il vit tout le temps et on a même calculé qu'il y a des réseaux mycéliens d'une espèce de champignon qui peuvent vivre plus de 2000 ans, plus de 5000 ans.
En fait, ils nous observent, ce sont peut-être eux les extraterrestres.
Ils sont bien cachés quand même.
Comment ça se manifeste, ce réseau mycélien dont tu parles?
C'est un réseau de filaments microscopiques. Donc que l'on ne voit pas, ou très difficilement, ou avec un microscope bien sûr, et qui peut être immense, puisqu'il y a eu une étude sur un champignon où le réseau faisait 9 km². Donc ça peut être immense, c'est très variable en taille, en profondeur c'est peu profond, généralement c'est dans les premiers mètres, et dans les litières de feuilles, dans l'humus. Et ces réseaux mycéliens, soit décomposent la matière végétale, on dit qu'ils sont saprophytes, ils décomposent la matière végétale, soit ils sont parasites, il y en a qui parasitent les plantes et puis des fois les animaux même, soit ils sont, ce qui est un peu moins connu mais en fait beaucoup plus important, ils sont symbiotiques, c'est-à-dire qu'ils sont en association avec les racines des plantes, en particulier des arbres, mais avec bénéfices réciproques. Donc si les forêts sont en bonne santé, c'est en particulier parce que le réseau mycélien est en bonne santé. Il y a eu vraiment des interrelations très importantes entre champignons et arbres.
Et alors quand tu as un réseau mycélien, c'est un organisme qui se manifeste dans divers endroits ou c'est plusieurs champignons?
En général, c'est une espèce qui a son propre réseau mycélien.
Non, la question n'était pas tout à fait celle-là, c'était est-ce qu'on peut considérer que ce réseau est un organisme unique?
Le réseau est un organisme unique, mais ultra ramifié, et qui peut atteindre une grande surface.
Mais peut-on dire que les champignons qui apparaissent, cet organisme reproducteur dont tu parles, sont de multiples bourgeons de la même entité?
Oui, chaque espèce a son réseau mycélien, mais bien sûr, dans un même endroit, il y a plusieurs réseaux mycéliens, donc c'est assez complexe. En général, on considère que pour un arbre, il y a au moins 5 ou 6 espèces qui sont de champignons qui sont en symbiose avec lui par le réseau mycélien. Donc il y a une espèce de fouillis considérable de mycélium dans le sol. Et en automne, on voit sortir l'appareil reproducteur qui est le champignon que l'on peut cueillir et dans certains cas que l'on peut manger.
Vas-tu peut-être enfin me répondre à la question, comment explique-t-on que des années, ces organes reproducteurs apparaissent et pas d'autres?
Ah ben, chaque espèce doit se reproduire. Hein, ça, c'est la vie. Hein. Chaque espèce doit se reproduire. Donc, chaque espèce, chaque année, élabore un organisme de fructification, un sporophore, qui peut avoir l'aspect classique du champignon, chapeau, lamelles et pieds, mais qui peut aussi avoir un aspect de buisson, hein, les crêtes de coq, ou alors une espèce de petite poire comme les vestes de loup. Donc les champignons sont variés de forme et ils se reproduisent par des spores. C'est-à-dire que l'appareil reproducteur fabrique, il est le seul, le mycélium ne fabrique pas de spores. C'est seulement l'appareil reproducteur qui fabrique des spores. Ces spores sont microscopiques et en nombre considérable. On a calculé que un seul champignon, pendant toute sa vie de sporophore, d'organe de fructification, peut fabriquer 12 milliards de spores. Donc c'est un pouvoir reproducteur considérable. Les spores sont ultra légères, donc elles peuvent être emportées par le vent. Elles sont plus ou moins colorées selon les espèces de champignons.
Et alors, je reviens, je suis un peu tenace et teigneux. Pourquoi y a-t-il des années avec champignons et d'autres avec moins de champignons?
Là, ça dépend du climat. Pour qu'il y ait une bonne fructification, il faut de la pluie et il faut de la chaleur. Disons que l'alternance pluie-chaleur, c'est un peu l'idéal. S'il n'y a pas de pluie du tout, ça sera une mauvaise année à champignons, en automne. Hein. Si il fait très très froid, il y a des champignons, le froid intense, ça leur convient pas. Hein. D'autres résistent mieux. Donc, en fait, pluie et chaleur alternées sont l'idéal, mais la pluie étant le facteur le plus important.
Peut-on envisager que des automnes trop secs pendant un certain nombre d'années finissent par porter atteinte à ce réseau mycélien parce qu'il ne pourrait pas y avoir de fructification, comme tu dis?
Non. Le réseau mycélien est extrêmement résistant parce qu'il est protégé dans la terre. Il est extrêmement résistant. Il peut vivre des dizaines ou des centaines ou des milliers d'années. Hein, des milliers. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de risque. La seule chose qui peut se produire, c'est qu'en effet, il y a une année défavorable au niveau des organes de fructification. Mais l'année suivante, ça va repartir. Et comme un seul champignon, un seul sporophore peut disperser des millions de spores, il n'y a pas beaucoup de risques. Par contre, on a quand même, c'est comme pour les plantes, des espèces de champignons très rares, y compris des espèces qui disparaissent. Là, ça reste un peu mystérieux pourquoi une espèce de champignon disparaît. Certaines sont liées à des qualités de sol. Donc peut-être que si on met des pesticides, alors là, ça va les détruire. Bon, il y a plusieurs explications. Mais en effet, dans les champignons, il y en a qui sont très communs, d'autres qui sont très rares. Hein ? En plus, on connaît quand même mal le monde des champignons. On pense qu'au niveau mondial, il y a plus d'1 500 000 espèces. On en a répertorié qu'aux environs de 80 000. Hein, parce qu'il y a des gros champignons, puis il y a des trucs microscopiques. Des levures, des moisissures. Hein, c'est immense, hein, le monde des champignons.
Il y a même les mycoses entre les doigts de pied.
Ah oui, et il y a les champignons qui s'attaquent à l'homme. Les mycoses. Donc c'est un monde immense. Donc il existe en effet des espèces rares, ça c'est vrai.
Et je m'en veux de spéculer car je suis réellement ignare en la matière, mais j'ai entendu parler qu'avec le réchauffement climatique, par exemple, il y avait certaines espèces d'arbres qui allaient remonter de plus en plus vers le nord progressivement. Peut-on envisager que justement, si les conditions climatiques changent, l'hygrométrie, etc., ça pourrait affecter certaines zones où on trouve plus ou moins des champignons?
C'est possible. On a un champignon qui est très bon, qui est la manite des Césars. C'est une amanite comestible à lamelles jaunes que l'on trouve plutôt côté Méditerranée, côté sud. Donc avec un réchauffement climatique, on pourrait penser qu'elle peut monter un peu et que l'on en trouvera plus souvent dans le Diois et dans le Vercors que maintenant, où elle est rare vraiment. Elle est rare. Donc c'est pas impossible qu'avec un réchauffement, il y ait des changements. Inversement, on pourrait dire que des espèces qui sont beaucoup mieux adaptées au froid, que l'on peut trouver en haute altitude, au contraire, elles seront victimes de la chaleur.
En fait, je comprends mieux, quand tu parles de ces champs mycéliens, pourquoi on trouve certains types de champignons répartis sur une même zone géographique. Par exemple, il y a des gens qui ont des coins à Chanterelle. Et donc, ils vont, je ne révélerai pas ses coins secrets, car chacun a ses coins. Mais en tout cas, il y a des coins où ça regorge de tel type de champignons, c'est parce que ce sont des champs mycéliens.
Oui, et c'est parce que aussi, ce champ mycélien est lié à certains arbres. Par exemple, il y a des champignons qui ne poussent que sous les sapins et pas sous les pins. D'autres qui poussent sous les épicéas parce qu'ils sont liés symbiotiquement aux épicéas. Ils vivent en collaboration, en coopération constante avec les épicéas. Donc, ils leur fournissent de l'eau parce que le réseau mycélien fournit de l'eau aux arbres en quantité importante. Et inversement, l'arbre leur donne des glucides par sa photosynthèse. Donc, il y a des espèces de champignons qui sont liées à une espèce d'arbre. On les trouve que là où il y a ces arbres, pas ailleurs.
Il y a aussi peut-être des champignons qui préfèrent les adrets et d'autres les ubacs.
Alors, ça, c'est lié surtout en fait à l'humidité. Donc, l'ubac est plus humide en général que l'adret. Disons que l'ubac, quand c'est orienté au nord ou à l'ouest, et c'est vrai dans le Diois, est plus favorable aux champignons que l'adret qui est orienté au sud.
Il peut y avoir quand même des champignons qui peuvent préférer la sécheresse, quand même, non ? Ça peut exister ou pas ? Non, ils aiment tous l'humidité.
Ils aiment tous plutôt l'humidité, mais il y a des champignons, en effet, qui s'adaptent mieux à la sécheresse que d'autres. Par exemple, ceux qui poussent sur les troncs d'arbres, on peut les trouver quelquefois toute l'année. C'est des champignons qui sont durs, qui sont coriaces. Mais ceux-là, on peut les trouver toute l'année parce que l'arbre lui-même, même mort, garde une certaine humidité. Donc ça se produit, oui.
Si on revient un petit peu au thème de cette exposition, qui est quand même les champignons du Diois et du Vercors, aurait-il quelques spécificités caractéristiques de notre région ?
Qu'il y ait des spécificités, c'est difficile à dire, parce qu'en réalité, si on associe Diois et Vercors, on a vraiment une grande biodiversité, puisqu'on a côté climat méditerranéen, je dirais, et puis côté climat alpin. Donc on a une grande variété de climats et de sols. La seule chose qui est commune un peu au Diois et au Vercors, c'est qu'on a des sols calcaires. Or, on a des champignons qui ne supportent pas le calcaire. On ne les trouvera pas dans le Diois et dans le Vercors. C'est le cas, en général, du cèpe de Bordeaux. Le cèpe de Bordeaux, il est plutôt côté sable, côté siliceux, granit, etc. Donc, calcaire, il n'aime pas trop. C'est pour ça qu'on trouve très difficilement des cèpes de Bordeaux dans le Diois et dans le Vercors. On trouvera d'autres cèpes. Mais pas cela. Alors bien sûr, on peut toujours trouver une espèce rare que l'on peut lier au Diois au Vercors, mais les champignons sont quand même assez répandus, ils se dispersent assez facilement, les spores sont emportés par le vent à des dizaines et des centaines de kilomètres. Bon, c'est assez difficile de dire, par exemple, je suis incapable de dire que cette espèce est seulement du Diois. À ma connaissance, non.
Par contre, comme tu dis, il y a des champignons qui préfèrent le calcaire au granit, ça c'est sûr. Et il y a certaines personnes qui disent que les champignons ont véritablement été des éponges par rapport aux nuages radioactifs à Tchernobyl. Est-ce que c'est exact cette histoire ou...
Non, c'est vrai. Les champignons, c'est l'un de leurs dangers d'ailleurs, peuvent concentrer soit la radioactivité, et ça varie selon les espèces, soit les métaux toxiques. Donc, c'est pour cette raison qu'il est plutôt déconseillé de ramasser des champignons au bord des routes à grande circulation, parce que ça concentre le plomb, ça concentre les métaux toxiques. De même, il est déconseillé de ramasser des champignons dans des champs d'épandage de déchetteries ou d'anciennes déchetteries. Voilà. Et pour la radioactivité, en effet, ils peuvent, dans certains cas, concentrer la radioactivité.
Ah ben depuis, c'est quand même, je me rappelle plus quelle année exacte. Bah, Tchernobyl, c'est dans les années 80.
Ça commence à être un peu loin pour l'iode qui disparaît rapidement au niveau radioactif. Pour d'autres, j'ai pas de connaissances très précises concernant des études récentes de calcul de radioactivité sur les champignons du Vercors, par exemple. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. D'abord, il n'y a quand même pas eu une radioactivité gigantesque au moment de Tchernobyl. Il y aurait des études scientifiques vraiment à refaire.
Oui, mais il paraît que ça n'a quand même pas été si négligeable que ça et qu'on a pu constater une augmentation des cancers de la thyroïde dans nos contrées. Enfin, moi, je l'ai entendu dire. Hein. Mais et puis, d'autre part, c'était il y a 25 ans maintenant.
Bah oui, et puis il y a plusieurs causes possibles au cancer de la thyroïde. Il n'y a pas que la radioactivité, il y a d'autres causes. Donc, en fait, c'est mal connu.
Ultime questionnement que je soumettrai à ta sagacité, au Jean-Claude. Dans certaines traditions médicinales ou spirituelles ou diététiques, je pense à l'ayurvédisme, la médecine ayurvédique et la médecine indienne, ils déconseillent de manger des champignons quand même. Justement parce que de façon assez générique, ils disent que les champignons sont comme les boutons de la terre et qu'ils concentrent effectivement un certain nombre de... Que comme s'ils purifiaient des impuretés, etc. Oui. Et qu'en les mangeant, on ingère un certain nombre de toxines. Que disent les nutritionnistes sur les champignons en général ?
Il y a à la fois du vrai et du faux. Le vrai, c'est que bien entendu, il y a des champignons qui sont très dangereux, mortels, indigestes. Le faux, c'est de généraliser. Il y a aussi des champignons qui sont d'excellents comestibles et qui apportent, en fait, des protéines. Le champignon, c'est essentiellement des protéines de la viande. Ce sont des protéines. Quand on le digère, ce sont des acides aminés. Hein, donc ça nous apporte des protéines, hein, ça apporte aussi un certain nombre de sels minéraux qui sont bons pour la santé. C'est positif. C'est-à-dire, en plus, c'est bon gastronomiquement. Hein, y a un bon goût pour les bons comestibles. Cette conception hindoue est fausse d'une certaine manière. En plus, elle sous-estime, parce que la science à cette époque-là ignorait complètement le mécanisme de la symbiose, donc elle sous-estime complètement le rôle positif, extrêmement positif des champignons par leur association avec les arbres, avec les plantes, y compris les plantes cultivées.
Et puis, de nos jours, combien de chefs prestigieux mettent à leur menu des champignons, si je suppose, c'est assez répandu.
Tous. Pratiquement tous les grands cuisiniers ont une connaissance des champignons et mettent les champignons dans leur menu. Il y en a qui sont spécialisés, qui sont à la pointe, par exemple en Auvergne, dans les régions à champignons, parce qu'il y a des régions qui ont plus à champignons que d'autres. Mais tous les cuisiniers sont au courant des champignons. Souvent, c'est un nombre limité de champignons qui sont utilisés. Parce que d'abord, peu de champignons se cultivent. Hein, on a le pleurote en forme d'huître. On a le rosé des prés. On a un peu les pieds bleus. Peu d'espèces, en fait, sont cultivées.
Le champignon de Paris.
Le champignon de Paris, c'est le rosé des prés. Hein. Champignon de Paris, c'est le rosé des prés. Donc on a peu d'espèces qui sont cultivées, donc qui sont facilement accessibles. Par contre, il y a beaucoup plus d'espèces que l'on peut manger, mais elles ne sont pas commercialisées. Parce qu'un restaurateur doit acheter ses champignons.
Hein. Il n'a pas le droit de les cueillir lui-même.
Il prend des risques, ou alors il faut qu'il les connaisse très bien. Voilà. Donc normalement, il doit les acheter au marché, parce que là, ils sont contrôlés. Hein. Le problème qu'ils ont, c'est que s'ils les achètent au marché, c'est cher. Ça se vend cher, des fois. Hein, les bolets, le kilo de bolets, le kilo de girolles, ça peut être cher. Donc ça fait des plats qui, pour ces champignons-là, sont chers. C'est pas vrai pour le champignon de Paris, où là, c'est très courant.
Sans parler de la truffe, qui est un champignon.
La truffe, et bien entendu.
Qui atteint des sommets dans les tarifs, quoi.
Voilà, et le kilo de truffe, c'est très, très cher.
Si on revenait dans nos latitudes.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme champignons ?
On en trouve beaucoup. Moi, je considère que dans le Diois et dans le Vercors, au minimum, il y a près de 400 espèces différentes de champignons que l'on peut cueillir, pas les manger, hein, mais qui sont visibles, qui ne sont pas des trucs microscopiques. Au moins 400 espèces, dont certaines sont mal connues et sont difficiles à déterminer scientifiquement. Dans les espèces mortelles, il y a au minimum 6 espèces, dans le Diois et dans le Vercors, qui sont mortelles. Il y a au minimum une trentaine d'espèces qui sont toxiques, dangereuses. Il y en a beaucoup qui sont non comestibles, soit qu'elles sont légèrement indigestes, soit qu'elles sont médiocres au niveau gustatif. Hein. Et moi, je considère qu'on peut ramasser à peu près, sur toute l'année, hein, une trentaine d'espèces bons comestibles, y compris des truffes et des morilles. Bons comestibles, une trentaine d'espèces. Le conseil, quand on récolte un champignon, c'est qu'il faut connaître les risques de confusion. Il y a des champignons, quand on le connaît bien, on sait que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'autres qui lui ressemblent. La trompette des morts, bon, c'est, on ne peut pas se tromper. Et puis même ceux qui vaguement lui ressemblent sont comestibles. Bon, il y a des, comme ça des champignons, on est pratiquement sûr de ne pas avoir de problème. Mais il y a d'autres champignons où il faut connaître les risques d'erreur. Par exemple, le petit gris, qu'on appelle le tricholome terreux, il a un risque d'erreur avec un champignon qui est beaucoup plus gros que lui et qui a un pied plus épais, qu'on appelle le tricholome tigré, qui est dangereux, qui est vraiment dangereux et que l'on peut trouver dans le Vercors. Donc, par exemple, tricholome tigré, il faut regarder les livres et voir ses différences avec le tricholome terreux, le petit gris, qui lui est comestible. Donc, il faut faire attention. Dans les amanites, on sait très bien que l'amanite la plus dangereuse que l'on trouve quand même dans le Vercors, c'est l'amanite phalloïde. C'est elle qui est responsable de plus de 90% des mortalités par champignons, qui sont faibles. Hein. C'est quand même une dizaine de personnes par an dans toute la France qui meurent vraiment à cause des champignons. Par contre, les intoxications, mauvais repas, mauvaise digestion, c'est aux environs de 20 000 à 30 000.
Mais
en France.
Mais on s'en remet.
Mais on s'en remet. Mais bon, on garde un mauvais souvenir hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, il faut quand même être précautionneux et se documenter, aller demander aux pharmaciens quand on ramasse des champignons et aller aux expositions mycologiques du week-end prochain.
Est-ce que les pharmaciens sont réellement compétents de nos jours ?
Ils ont tous une formation, mais elle est d'assez courte durée. Et alors après, ça dépend des pharmaciens. Il y a des pharmaciens qui se passionnent pour les champignons, donc qui sont très compétents. Et puis d'autres qui, c'est un peu loin. Mais le pharmacien, je pense, a toujours dans sa pharmacie un livre concernant les champignons. Et il peut aller consulter ce livre. Et puis, par contre, ils connaissent les champignons les plus dangereux. Et puis souvent, ils vont eux-mêmes cueillir des champignons, donc ils s'y connaissent.
Alors, deuxième façon de connaître les champignons, ces fameuses expositions mycologiques.
Ouais.
À quoi peut-on s'attendre lorsqu'on pénétrera les portes de la salle polyvalente vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19? Comment ça se présente une exposition mycologique?
Ouais. Alors d'abord, c'est plus varié cette année que l'année passée, parce qu'on a en fait deux lieux d'exposition. Le grand lieu d'exposition avec les vrais champignons qui sont apportés, il y a des personnes qui vont les cueillir et d'où les apportent, c'est la salle polyvalente de Die. Donc ça, c'est le lieu principal d'exposition où il y aura aussi une personne qui va présenter des fruits et des fruits. On peut demander des noms de variétés de fruits. C'est nouveau cette année. Il y aura une exposition de timbres sur les champignons. Il y aura quelqu'un qui parlera des lichens et des teintures végétales. Donc c'est plus varié cette année que l'année précédente. Et il y a un jour de plus, puisqu'on a trois jours au lieu de deux jours. Et il y a aussi en même temps une exposition à l'espace Tinive, rue de l'Armellerie, où il y aura simplement le côté un peu plus scientifique des champignons, classification, art, science et champignons. Donc il y a deux lieux d'exposition, le plus important étant bien sûr la salle polyvalente. D'autre part, on associe aussi 10 restaurants de Die à cet ensemble. Donc on a une dizaine de restaurants à Die qui peuvent vous proposer des plats avec champignons du vendredi de ce week-end au dimanche. Alors à l'exposition, bien sûr le plus important, c'est le fait que les gens nous apportent des champignons, en particulier à partir du jeudi après-midi, à la salle polyvalente, on les détermine, on les met sur des assiettes avec l'étiquette, on donne leur nom commun, leur nom scientifique, et on dit s'ils sont comestibles ou pas comestibles. Donc l'année dernière, on était quand même arrivé à monter à peu près à environ 190 espèces différentes de champignons. Cette année, ça sera peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Ça dépend en fait du nombre de gens qui nous apportent des champignons, tout simplement. Et samedi et dimanche, on peut aussi nous apporter des champignons, parce qu'il faut les renouveler aussi, les champignons. L'inconvénient des champignons, c'est qu'il y en a qui ne tiennent pas longtemps, qui pourrissent tout de suite. Hein, le coprin chevelu, qui est un champignon comestible quand il est jeune, au bout de 5 heures, c'est un liquide noir. Alors, c'est plus possible. Hein. En plus, ça sent mauvais. Donc voilà, on a aussi le problème des odeurs de champignons. Il y en a qu'on ne peut même pas mettre tellement ça sent mauvais. Donc ça sera une exposition assez importante, assez variée.
Mais je crois, si je ne m'abuse, qu'il y a aussi des modèles de champignons, des espèces de sculptures.
Voilà, c'est apporté par Jean Digotier, ça a été fait par quelqu'un de la famille, qui a fabriqué avec en terre, puis peint ensuite, plus de 150 espèces de champignons. C'est une collection exceptionnelle. Alors, bien sûr, c'est des faux champignons.
Mais pérennes.
Oui, hein, ça a été fait par un Diwa. Ça date d'une quarantaine, cinquantaine d'années, je crois, maintenant. Et c'est tout à fait exceptionnel. Voilà. Donc il y aura cette collection qui était déjà là l'année dernière, hein, qu'on va représenter, et qui permet aussi de voir les champignons représentés d'une autre manière, quoi. Mais bien sûr, le plus important, c'est les vrais champignons, enfin ceux que l'on nous a apportés, que l'on a accueillis, et qui sont présentés de façon un petit peu classée, c'est-à-dire qu'on met ensemble tous les lactaires, on met ensemble tous les tricholomes, on met ensemble tous les bolets. Voilà, il y a une sorte de classification qui est faite pour faciliter la reconnaissance. Parce qu'il y a des ressemblances aussi entre plusieurs espèces. Par exemple, toutes les russules, c'est des champignons qui sont charnus et dont la queue se casse facilement. Bon, toutes les russules, elles ont une chair granuleuse. La queue ne se plie pas, elle se casse d'un seul coup. Donc, on a groupé, les mycologues ont groupé les russules. Il y a une table des russules, il y a une table des lactaires, il y a une table des bolets.
D'où sort-elle cette exposition ?
Elle était à Châtillon. Il a fabriqué ces champignons. Il était de Châtillon. Il est décédé maintenant. Il était de Châtillon en Diwa.
Et on peut la voir dans le reste de l'année ?
Ah non.
Elle sort uniquement pour cette occasion ?
Oui, oui. À ma connaissance, sauf si les enfants veulent la présenter ailleurs. Mais à ma connaissance, elle ne sort que pour cette exposition de Die.
À un moment, tu as dit que on va ausculter les champignons que les gens nous amènent. Mais qui est ce on ? Qui sont ces experts mycologues ?
C'est là où on a le plus de difficultés. Alors moi, je suis l'un de ceux qui détermine. Il y aura une mycologue qui vient de Lyon qui va nous aider aussi. Il y a une ou deux personnes à Die qui connaissent assez bien les champignons qui vont nous aider. Mais malheureusement, on manque sur le Diwa de mycologues confirmés. Parce que les mycologues confirmés que l'on trouve par exemple à l'association mycologique de Montélégier sont tous pris. C'est une petite période, donc les quelques personnes qui sont très compétentes, il y en a seulement 4 ou 5 sur la vallée de la Drôme. Elles sont débordées. Donc il y a un réel problème qui est difficile, parce que d'abord, c'est difficile dans certains cas de déterminer des champignons. Il y a malheureusement des groupes, comme les cortinaires, où il y a plus de 250 espèces différentes, et c'est des tailles infimes, donc on peut... C'est pas évident. Les grands mycologues qui connaissent 600 ou 700 espèces, il y en a peut-être 5 en France, hein, sur toute la France. Donc c'est un problème, ça. On manque de scientifiques, je dirais. On manque de mycologues scientifiques qui soient capables de bien déterminer. Il y a des champignons, il faudrait presque, pour trouver le nom exact, le microscope et une dizaine de produits chimiques pour les colorer, pour voir si ça réagit, si ça ne réagit pas. Et puis le problème, c'est le temps limité. Si on est 3 ou 4 et que les gens débarquent avec 400 champignons ou 1000 champignons, on ne peut pas suivre. Donc c'est la difficulté principale que l'on a pour l'exposition mycologique de Die. Bon, j'étais presque le seul l'année dernière. On a quand même réussi. On peut quand même, quand les gens nous apportent un panier avec des champignons, leur dire « ça c'est toxique, ça je vous garantis que c'est bon ». Et ça, écoutez, je ne le connais pas, soyez prudents, ne le consommez pas. La difficulté aussi, c'est qu'il y a aussi des variabilités individuelles chez les personnes. Donc on peut avoir un champignon qui est comestible, marqué comestible dans les livres, Mais une personne, on ne sait pas trop pourquoi, le supporte moins bien. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Il y a aussi des erreurs qui sont commises où le champignon évolue. Parce que le champignon, c'est du vivant. Ça peut évoluer. Il peut d'un seul coup, par mutation, devenir indigeste alors qu'il n'était pas avant. Hein? On a le cas pour le paxil enroulé. Moi, les paxil enroulés, j'en ai mangé quand j'avais 25 ans, 30 ans. Il était marqué comestible dans les livres. Maintenant, il est marqué toxique. Parce qu'il y a eu, sur une petite minorité, des accidents graves. Donc maintenant, il est marqué toxique. Mais avant, ce n'était pas le cas. Il y a aussi cette difficulté. Alors par contre, au niveau bibliographie, en ce qui concerne les champignons, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs livres qui sont de bonne qualité. Mais pour dire quand même la difficulté, l'un des livres qui présente le plus d'espèces, il est quand même à, je crois, 3200 espèces différentes de champignons. Il présente 3200 espèces avec des photos. D'où la difficulté. Comment pour une personne, c'est pas possible de connaître 3200 espèces. Alors heureusement, dans le D-Wild, dans le Vercors, bon, il y a probablement plus de 400 espèces, mais c'est pas 3200, c'est 400.
Et comme tu dis, on évite ceux qui pourraient être sujets à confusion quand un de leurs cousins les plus proches pourrait être toxique.
Dès qu'on a un doute, dès qu'on ramasse un champignon que l'on connaît, que l'on dit « tiens, il est un peu bizarre », on laisse tomber pas le bel. D'autre part, bien sûr, il faut savoir que quand on dit dans un bouquin qu'un champignon est comestible, c'est obligatoirement comestible cuit. Hein, c'est toujours cuit. Hein, parce qu'il y a beaucoup de champignons qui sont comestibles cuits et qui sont toxiques crus. Ça, il faut le savoir. Hein. Obligatoirement, il faut cuire les champignons. Et pour certaines espèces, moi-même, je recommande non seulement de cuire, mais avant de ce qu'on appelle blanchir, c'est-à-dire ébouillanter, jeter la première eau et refaire passer à la casserole, par précaution.
Donc, dans le doute, s'abstenir, hein, voilà. C'est bien cela.
Voilà.
Très bien. Alors, comment fait-on? On arrive avec son petit panier. Y a-t-il un ticket d'entrée? C'est gratuit.
C'est participation libre. Il y aura aussi quelques cartes postales de représentants des champignons qui seront en vente 50 centimes. Donc, il y a des petits trucs que l'on peut acheter, mais c'est participation libre. Et donc, on peut. Alors, c'est à partir du vendredi. Hein, à partir du vendredi. Alors, le vendredi, c'est à partir de 10h. Vendredi, samedi, dimanche, c'est 10h-18h. Le vendredi, bien sûr, on privilégie un peu les scolaires. C'est ouvert à tout le monde. Mais c'est bien sûr les scolaires qui vont venir.
Ils n'auront peut-être pas le temps d'aller chercher des champignons.
Bah, la veille. La veille, peut-être. Et puis, ce qui peut se passer, par contre, c'est que les enfants viennent le vendredi et puis que le samedi et le dimanche, ils demandent à leurs parents d'aller ramasser des champignons. Ça, c'est tout à fait possible. Les champignons, la mycologie, enfin les champignons, c'est très familial. Hein. Contrairement à la chasse et à la pêche qui sont plutôt des activités d'hommes, je dirais, hein, alors les champignons, c'est vraiment famille. Femmes, enfants, hommes, c'est très familial. C'est une jolie promenade. Bon, Vercors, il faut faire attention à ne pas se perdre. Hein. C'est vraiment pratiqué par beaucoup de personnes. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes alors, qui ont peur des champignons et qui ne ramassent aucun champignon. C'est tout à fait leur droit, hein. C'est tout à fait possible. Hein. On refuse les champignons. C'est moins dangereux que le tabac, quand même. Hein. Les bons champignons n'ont pas le danger du tabac. Bon, c'est vrai que en se documentant, on peut sélectionner 5 espèces. En général, beaucoup de gens ne ramassent que 4 ou 5 espèces qu'ils connaissent bien et il n'y a pas beaucoup de risques. C'est des fois ceux qui s'y connaissent mieux qui font des erreurs. Il faut être très prudent, même quand on s'y connaît. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais je n'ai pas fait d'erreur. Mais il y a un champignon, ce qu'on appelle le meunier. Ça pousse au printemps, c'est un très bon champignon du printemps. Et j'étais persuadé d'avoir trouvé des meuniers. Et puis, bon, moi, je suis quand même très prudent. Donc, j'ai consulté les bouquins. Et puis, eh ben non, ce n'était pas le meunier, ça ressemblait beaucoup. Et il était toxique. Donc, il faut être extrêmement prudent.
Si je ne m'abuse quand même, le champignon que beaucoup ramassent de nos jours, enfin à grande dose, parce qu'il y en a vraiment partout, c'est la craquerelle, le petit...
Oui, Oui.
Les sauterelles, il y en a partout, ouais. Et c'est très bon. Et, a, oui, et là, oui. Il est difficile de se tromper.
Oui, oui. La craterelle, il n'y a pas beaucoup de risques d'erreur.
Pas beaucoup quand même.
Oui, il y a un petit champignon qui est rare, qui peut ressembler, qui est indigeste. Le problème, c'est que quelquefois, vous tombez dans un coin de craterelle. On dit, waouh, super. Donc, il y a des craterelles de partout. Donc, vous ramassez à toute vitesse. Et puis, bah oui, mais même pour les craterelles, quand on ramasse, il faut quand même regarder un petit peu. Hein ? Il y a un petit champignon qu'on appelle Léossi, je crois, qui ressemble. Bon, il ne ressemble pas. Normalement, on ne devrait pas se tromper. Mais si vous ramassez à toute vitesse sans rien regarder, parce qu'il y en a, alors là, ils sautent au plafond, quoi. Waouh, je vais avoir 2 kilos de craterelles. Donc, ils ramassent à toute vitesse sans faire. Il faut quand même faire attention. Faut quand même faire attention. Bon, il y a peu de risques, parce que de toute façon, la confusion, il n'est pas très toxique, il n'est pas.
Pour en revenir un petit peu au programme de ce week-end, le vendredi, c'est plutôt pour les scolaires. Ouais. Le samedi, y a-t-il des spécificités ?
Famille, dimanche.
Avec donc des dégustations, peut-être ? Non,
il n'y a pas de dégustation. Par contre, il y a 10 restaurants qui peuvent vous proposer des plats avec champignons.
Eh bien, super. Comme toujours, tes grandes connaissances sont un vrai plaisir, Jean-Claude, sans vouloir te gonfler exagérément tes chevilles. Néanmoins, on peut rappeler que cette 3e exposition mycologique vous attend avec vos paniers de champignons. Des experts vous diront ce qu'ils en pensent, du vendredi 17, samedi 18 au dimanche 19 octobre à la salle polyvalente de Dire, route du Ballon, de 10h à 18h. Merci Jean-Claude.
Merci.
Au revoir.
Interview. 1 Terre View.
Okay, the bird.
L'interview du jour.